un spécialiste des jeux vidéo. Je ne suis pas non plus un pratiquant des jeux vidéo, puisque je suis un handicapé du joystick et je perds trop rapidement pour arriver à profiter vraiment de l'expérience vidéoludique. C'est pas que ça m'intéresserait pas ou que je trouve pas ça sympa, c'est que j'y arrive pas. Et donc, en revanche, ça fait quelques temps maintenant que je m'intéresse à la question de la relation entre l'espace et la technique numérique. Et évidemment, dans ce cadre-là, le jeu vidéo, c'est quelque chose que je garde un petit peu dans un coin de mon esprit. Et d'autre part, il se trouve que j'ai travaillé depuis quelques années pas mal sur les imaginaires numériques à partir de la science-fiction. Et ce séminaire-là me permet de faire, vous allez voir de manière peut-être un tout petit peu artificielle, la jonction entre ces deux thèmes, en quelque sorte. C'est ce que j'essaye de cerner d'une manière générale à travers à la fois la science-fiction et les jeux vidéo. C'est ce qu'on pourrait appeler une géographie de l'infosphère, puisque je suis géographe. Et ce que j'essaye de comprendre globalement, alors scoop, c'est la première fois que j'utilise ce néologisme publiquement aujourd'hui, voilà, c'est de bâtir une géographie qui prenne en compte la part informationnelle de notre environnement, qui est particulièrement lourde et en expansion, notamment avec le développement de ce qu'on appelle l'informatique ambiante, ce genre de choses. Et j'aborde ça notamment du point de vue des modifications que ça entraîne dans nos représentations de l'espace, nos conceptions de l'espace, et donc je travaille pas mal sur les imaginaires qui sont liés au développement des techniques numériques. Bien. Ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est un petit exercice rétrospectif en profitant de la sortie récente d'une suite à Tron. Donc, qui était Tron, c'est un film de Lise Berger, 1982. Il vient de sortir un film d'un type dont j'ai oublié le nom, c'est son seul film d'ailleurs. Tron, l'héritage. C'est un premier film, mais j'ai l'impression que Lise Berger n'était pas loin et lui a un petit peu. Tenu la main, si j'ai noté le nom du bonhomme, hein, mais Kosinski, merci. Qui donc vient de sortir en France et qui est sorti en décembre aux États-Unis. Et je voudrais vous montrer à partir de quelques images de l'ancien Tron et du nouveau Tron, un petit peu la façon dont on concevait ce que pouvait être un espace virtuel en 82, comment on conçoit aujourd'hui un espace virtuel et essayer de proposer quelques interprétations autour de ces images. Je prendrai aussi bien Tron comme Tron l'héritage, comme ce que Jameson appellerait des récits symptomatiques, c'est-à-dire des symptômes de l'ambiance culturelle de leur époque. Je pense que ça peut se défendre dans la mesure où, particulièrement le cinéma, où on a affaire dans ces grosses productions à des œuvres collectives, c'est quelque chose qui a quand même tendance à ramasser un petit peu tout ce qui est dans l'air. On pourrait prendre l'exemple de Matrix pour montrer comment la série des Matrix sont des films qui ont vraiment ramassé tout ce qui était en germe depuis un certain temps et puis qui l'ont compacté et popularisé. Dans une certaine mesure, je pense que Tron et Tron l'héritage, ça correspond un petit peu à ce genre de démarche. Alors, juste une. Si, tiens, ça c'est coincé, c'est bloqué, je suis. C'est pas démarré, qu'est-ce qui se
Ah.
passe? Non, mais je vais le relancer, c'est pas grave. Peut-être un petit plantage. C'est normal, on parle d'informatique, ça plante, donc je vais relancer ça tout de suite. Un petit rappel visuel pour commencer. Je vais vous montrer les affiches de Tron et de Tron l'héritage, et puis je vous passerai successivement la bande-annonce du premier Tron et la bande-annonce du deuxième Tron. Évidemment, ici, j'ai eu un problème d'illustration, puisque le deuxième Tron n'est pas encore disponible en vidéo par des moyens légaux. Il l'est par des moyens illégaux. Ce n'est pas que je répugne à les employer, mais c'est vraiment de trop mauvaise qualité pour que je me résolve à les exploiter en public. Donc, on recommence. Toc. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a manifestement une volonté de s'inscrire dans une continuité visuelle jusque dans le graphisme de l'affiche. On a, et c'est important parce qu'on aura l'occasion de revenir, une stylisation qui est quand même beaucoup plus marquée sur l'affiche de 82 à gauche que sur l'affiche de 2010 à droite. Et notamment, ce qui est important, ce qu'on peut noter, ce qui est important, c'est la présence beaucoup plus physique, beaucoup plus charnelle des corps dans le deuxième trône. Et on verra que c'est un des points sur lequel vraiment il y a une divergence dans les imaginaires numériques entre les deux époques. Je vais à présent vous montrer, pour que vous ayez en tête le style visuel des deux productions, d'abord la bande-annonce de 1982. Ce serait bien s'il y avait des images.
C'est peut-être le plein écran qui se passe pas.
Ouais. Non, mais je vais.
Non, il n'y a pas d'image.
Non, il n'y a pas d'image ici non plus, donc j'ai d'autres ressources. Je vais pas. Je vais aller chercher le fichier directement et je vais vous le mettre. Voyons voir. Ça, c'est le syndrome de la démo. En fait, c'est tous ceux qui ont fait un tout petit peu d'informatique connaissent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on teste chez soi, ça marche, et quand on est en public et qu'on fait la démo, ça plante. Et c'est une règle qui ne souffre pratiquement aucune exception.
Même Steve Jobs, il a fait les choses.
Exactement.
C'est ça.
Ah oui, parce que le PowerPoint n'était pas arrêté, en fait. Donc je l'arrête. Voilà. Non. Ça marche. Si, non, mais d'habitude, ça marche. Ça aussi, c'est le syndrome de la démo. Le démonstrateur dira toujours, d'habitude, ça marche. C'est pas... Et le pire, c'est que souvent, c'est vrai. Par exemple, d'habitude, on peut, avec contrôle à sucre, arrêter un programme. Ça, c'est la loi de Murphy, c'est pas le syndrome de la démo. C'est une fois que ça a commencé à planter, ça va vraiment planter complètement. Alors, vous avez choisi de mettre fin au programme ne répondant pas. Ne pas envoyer le rapport d'erreur qui n'est pas connecté de toute façon. Ah, ben, l'écran est libre, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, évidemment, la fenêtre se met sur lui.
Where time and distance defy the laws of logic.
I still do not understand why you want to break into the system.
Because we have somewhere.
Bon, ça c'est les scènes dans le monde irréel, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des scènes nocturnes. On y reviendra sur les séquences.
Hey, it's the big master control program everybody's been talking about.
Alors ça, c'est la scène où l'opérateur va passer dans le monde virtuel, donc il est numérisé avec... Il est réduit à sa géométrie, voilà, et instantanément, il se transmet, il est à l'intérieur de la machine. Et on va voir à quoi ressemble l'intérieur, le monde virtuel à l'intérieur de la machine.
And escape do not compute. Journey across an electronic scene on cycles made of light.
Alors on est à mi-chemin effectivement entre les graphiques vectoriels qu'on voyait tout à l'heure et puis des choses plus actuelles. Bien. Ceci étant fait, je récupère mon curseur et je vous montre la bande-annonce actuelle. Je peut-être, est-ce que j'essaie de la passer sur le PowerPoint?
Non, mais là, comme ça,
ça
marche bien.
Ouais,
d'accord. Prendre de risques, c'est un autre syndrome, ça aussi.
En revanche, ouais. En revanche, je pense que je vais plutôt utiliser ça. Ah oui, alors c'est énorme en fait, c'est vrai, parce que ça tient sur l'écran. Ah oui. Alors, toujours le même motif de la ville nocturne. et là on va voir que la confusion entre alors là c'est le monde réel. C'est utile de le préciser parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus difficile dans le nouveau trône de faire la différence, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, entre le monde réel et le monde virtuel que dans l'ancien. Donc je résume l'intrigue. Ça c'est le fils du personnage du premier trône. Son père a disparu et il va découvrir qu'en fait il est resté coincé dans le monde virtuel. Le monde virtuel auquel on accède non plus par une grosse machine avec laser, enfin un petit peu comme dans l'autre, mais principalement en ouvrant une porte qui se trouve derrière la borne d'arcade.
Vachement
décevant. Oui, et d'ailleurs le personnage ne s'aperçoit pas tout de suite qu'il est passé dans le monde virtuel, parce que le monde virtuel justement est un clone. Plus ou moins. Il y a eu Matrix entre les deux. En partie aussi, mais Matrix aussi. Matrix, c'est Alice au pays des merveilles. Alors bon, il y a quand même le passage. Et voici le monde. Voici à quoi ressemble dans le monde virtuel, nouvelle version. On a la même géométrie, mais dans des dispositifs qui sont extrêmement différents, notamment pour certaines séquences, le combat de disque et les programmes, vous voyez, ne ressemblent plus exactement aux programmes de 1982. Il y a eu des upgrades assez sensibles.
Comme vous le voyez.
Oui. Notamment les filles ont été upgradées très fort. Mais même les mecs. Hein.
C'est une coupe de cheveux années 80.
Oui, c'est ça. C'est terrible.
Voilà. Et non seulement les couilles, les gars, mais aussi les véhicules, les motos, etc. Comme on va le voir dans quelques images qui arrivent. Alors, c'est un film en relief. On va voir là aussi que, sans doute, c'est pas indifférent. Enfin, c'est indifférent pour le spectateur, mais c'est pas indifférent du point de vue du dispositif et de la façon dont on peut l'interpréter. Donc, je supprime tout ça. Voilà. Je range ça. Où j'arriverai à les récupérer tout à l'heure. Et je reprends le diaporama. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de montrer quelques caractéristiques de l'espace virtuel ancienne mode, de montrer comment ça a évolué, et ensuite d'essayer d'interpréter un petit peu cette évolution. Alors, entre-temps, j'ai perdu mon PowerPoint. Oui, parce que sinon, ce serait... Il doit rester dans le... document récent. Voilà. Donc je relance et je passe sur les vidéos. Non, elle ne démarre pas non plus. C'est normal, je vérifiais juste qu'elle ne démarrait pas. Et elle passe pas non plus. Ah si, voilà. Alors, monde virtuel, donc première mouture. On voit qu'on est dans une esthétique qui est assez abstraite. Finalement, c'est produit par les studios Disney, et on pourrait dire que pour un film, disons, mainstream, qui aurait dû avoir un public abondant, on va voir que ça n'a pas été un succès commercial aussi important que ce que les producteurs avaient espéré, on a des choix visuels qui sont assez radicaux, puisque... on est dans des graphismes assez abstraits, avec le maillage qui, évidemment, symbolise pour l'époque et encore maintenant, d'une certaine façon, en triangle, qui symbolise la modélisation 3D, mais avec des formes qui ne sont pas immédiatement reconnaissables, même si dans tout le film, on a des parallèles qui sont faits, je vais vous le montrer dans un instant, entre l'univers urbain et l'univers à l'intérieur de la machine. Ce qui caractérise essentiellement l'esthétique du monde virtuel dans le premier volet de Tron, c'est plutôt son abstraction et son caractère assez radicalement étrange. Ce qui se ressemble plus à une image urbaine à l'intérieur de ce qui s'appelle la grille dans les Tron, c'est ce qu'on voit ici, c'est juste une figure de labyrinthe. Finalement, il n'y a pas ici d'éléments qui soient explicitement des éléments architecturaux identifiables comme tels. On peut penser que ça figure plus ou moins des composants électroniques, mais c'est des choses qui sont quand même assez éloignées, de notre univers quotidien par le traitement de la géométrie, par le traitement des couleurs, le fait qu'il y ait des aplats. C'est un monde où il n'y a pas non plus de règles physiques semblables à celles de notre monde, et les gens s'y téléportent, la gravité est plus ou moins active. Et c'est donc le monde à l'intérieur de l'ordinateur est tout à fait étranger. Alors, malgré tout, il y a une continuité visuelle entre le monde de la machine et le monde réel. C'est intéressant de voir que ici, on a en haut à gauche une image du monde à l'intérieur de la machine. Les bureaux de la société de jeux vidéo où se passe une partie de l'action, vous les voyez en bas, on voit bien comment on a ici une espèce de répétition, de réinterprétation sous une forme épurée, sous une forme extrêmement stylisée du monde urbain, mais avec, voyez, une physique tout à fait exotique, puisque il y a un type qui marche dans le vide, par exemple, qui marche sur rien. Et cette continuité-là, elle est, je dirais, discrète et assez peu marquée. On verra la différence avec le trône actuel. Cette stylisation, elle s'étend non seulement au décor, mais elle s'étend aussi au corps, au corps des acteurs, même à leur visage, puisqu'ils sont traités, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui avait fait partie des éléments promotionnels du film. Ils sont traités par ordinateur pour redessiner sur leur corps cette espèce d'armure lumineuse qui en fait reprend des motifs un petit peu de circuits électroniques et qui a un petit peu l'effet sur les silhouettes des rayures du zèbre, c'est-à-dire que ça casse la silhouette, c'est presque un camouflage, ça désincarne beaucoup le corps des acteurs, puisque là aussi, vous voyez, il n'y a pas d'ombre portée sur ces corps, donc ils sont presque en 2D à cause de ce dispositif-là. Et tout ce qu'on va avoir, par exemple, de volumique, de charnel dans le nouveau trône, là, c'est quelque chose qui est absent. Ça les désindividualise aussi, puisqu'ils sont tous plus ou moins habillés de la même façon. Alors, il n'y a que la couleur qui change, donc ils appartiennent à une équipe de bons ou de méchants. Et les visages même sont presque effacés, là aussi, par le traitement de la couleur. On dirait un vieux film en noir et blanc, mal reporté, avec une pellicule qui aurait mal viré. Tous les personnages sont comme ça. C'était des choix visuels assez radicaux, et ça explique peut-être d'ailleurs qu'au fond le 3 n'a pas si bien marché que ça en salle. C'est devenu un film culte pour deux raisons, parce que d'une part il a été précurseur dans l'emploi des techniques informatiques, et c'est très important parce qu'en fait c'était un film qui mettait en scène de manière tout à fait délibérée son propre processus de production numérique. Pour la première fois, on les employait massivement, et la promotion de Tron, ça a été ça. C'est un film sur un ordinateur fait par des ordinateurs. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que il n'a pas pu être nommé pour les effets spéciaux aux Oscars. Ils ont dit, mais c'est de la triche, vous avez utilisé des ordinateurs. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est à partir de Tron qu'on va vraiment faire la différence entre l'effet spécial et l'effet visuel. L'effet spécial nécessitant un dispositif physique qu'on va réellement filmer, l'effet visuel étant quelque chose qui est produit sur la pellicule par le moyen de, maintenant classiquement, de l'informatique, même si le fait de dire effet visuel, ça ne présuppose pas qu'il y a de l'informatique, mais maintenant, quand on dit effet visuel, c'est quasiment l'équivalent d'image de synthèse. Première chose pourquoi il est devenu un film culte, donc c'est ce basculement que ça marque dans l'histoire de l'industrie cinématographique vers l'utilisation d'ordinateurs pour produire des images. Ce n'est pas le premier qui l'utilisait, mais c'est le premier qui l'utilisait massivement. Et la deuxième raison, c'est qu'on a la figuration d'un espace virtuel à l'intérieur d'une machine. On est en 82, c'est 2 ans avant que Neuromancien apparaisse. Donc c'est avant qu'on parle même de cyberespace, avant même que l'idée d'un espace à l'intérieur de la machine soit popularisée, même si l'idée d'un espace virtuel est beaucoup plus ancienne, c'est des choses qu'on trouve chez Galway, je ne sais jamais comment on prononce, l'auteur de Simulacron 13, personne ne m'aide, Simulacron suivi d'un numéro qui a...
Wikipédia.
Simulacron combien ? 3. Simulacron 3 simplement. Oh, je l'avais upgradé aussi. Donc Simulacron 3, c'est dans les années 60, je crois, où on a la description d'un véritable espace virtuel. Mais il y a une différence entre les espaces virtuels type Simulacron 3 et l'espace virtuel de Tron, qui est plus proche du cyberespace. C'est-à-dire que les espaces virtuels avant étaient des simulations trompeuses destinées à donner l'illusion à reproduire un monde qui n'appartenait pas en propre à la machine, alors que là, on a quelque chose qui ne se donne pas comme la simulation de quelque chose qui existe ailleurs, mais qui se donne comme la visualisation du monde intérieur de la machine, exactement ce que va être le cyberespace, même s'il y a des différences, parce que l'aspect réseau n'est pas développé dans Tron. On a quand même ici la construction d'un élément qui va devenir essentiel des imaginaires numériques, c'est-à-dire l'espace propre de la machine, et pas seulement la machine comme productrice d'espace trompeur. Donc, pour toutes ces raisons, malgré son succès commercial mitigé, Tron a marqué une étape importante dans les relations entre le cinéma et l'ordinateur. Et on pourrait dire aussi entre le cinéma et le jeu vidéo, puisque quand même la machine à l'intérieur de laquelle on pénètre ici, c'est la machine centrale d'une société productrice de jeux vidéo. Et d'ailleurs, ce graphisme extrêmement épuré que j'ai déjà mentionné, en fait, il est dérivé du graphisme des jeux vidéo de l'époque. Alors ça, c'est un produit dérivé de Tron, qui est le jeu vidéo tiré du film, avec la course de moto, et on voit... vous voyez, il y a une espèce de jeu de circulation là, entre le graphisme de Tron volontairement simplifié pour être en quelque sorte mimétique de celui des jeux vidéo de l'époque, et puis il y avait les limitations techniques qu'ils avaient, qui donc étaient par la force des choses assez rudimentaires, et puis le jeu vidéo en retour reproduit des choses qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on voyait dans le film. Mais je pense que le côté presque abstrait des images de l'intérieur de la machine de Tron peut se lire de deux façons différentes. Évidemment, comme une tentative de créer un univers visuel proche de l'univers des jeux vidéo de l'époque, mais aussi comme affirmation que ce qui est à l'intérieur de la machine est un monde qui est radicalement étranger, que c'est quelque chose qui n'appartient pas du tout à notre monde et que l'écran est vraiment une barrière. Et lorsqu'on la franchit, on passe de l'autre côté dans quelque chose où l'homme n'a vraiment pas sa place. Au contraire, dans le nouveau Tron, alors j'ai eu une hésitation en voyant cette image, et je l'ai encore d'ailleurs, je ne sais plus si on est dans la simulation ou dans la vie réelle. Non, on est dans la simulation. On est dans la simulation, mais vous avez peut-être vu un plan bref dans la bande-annonce avec une moto qui circulait dans un tunnel, c'est le même. Et là, pourtant, on est sur la grille, on n'est plus dans la ville. Ce qui est frappant dans le nouveau Tron, mais c'est conforme à l'évolution des jeux vidéo aussi, c'est qu'on a cette fois-ci un univers virtuel qui est complètement mimétique de l'univers réel, à tel point que par rapport à l'ancien Tron, en matière de possibilités ludiques, par exemple, c'est un monde qui est très appauvri, puisque la physique est beaucoup plus stricte que dans le premier. C'est fini, on ne va plus se téléporter, par exemple. Si on veut aller d'un point à un autre, il faut prendre un véhicule. Il y a de l'air, il y a de la pluie, il y a du vent, etc., de la poussière, tous ces éléments qui sont d'une part le Saint Graal des concepteurs de jeux vidéo actuels, pour qui la physique est devenue vraiment un des éléments centraux de ce qu'on considère comme être un critère de qualité graphique. Plus vous avez de particules, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la façon dont on code les images de jeux vidéo, plus votre jeu en général reçoit les faveurs de la critique. Et là, il y a un usage en matière justement d'image de synthèse. Tron numéro 2 est une véritable débauche de particules. On pourra y revenir lors de la discussion. Mais surtout, ce qui est assez frappant, c'est que l'aspect ludique a presque complètement disparu. De manière assez significative, Netcom, la société qui était présentée dans le premier opus essentiellement comme une société éditrice de jeux vidéo, là, c'est devenu une société qui édite un système d'exploitation, version 12. Et quand on demande d'ailleurs au PDG qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la version 12, il répond « on a mis un 12 sur la boîte ». Ce qui est assez... enfin bon, vous voyez... Deux sociétés du monde réel peuvent être visées par cette critique, je vous laisse deviner lesquelles. Dans une scène très célèbre en France, c'est le combat de disques, qui est le premier jeu auquel on assiste dans le premier trône aussi, et qui est reproduit dans le deuxième trône. C'est un jeu où deux gladiateurs doivent s'affronter en se lançant des espèces de frisbee. Voyez le traitement dans le premier trône, c'est on est dans un espace divisé en deux, un petit peu comme l'écran de Pong ou d'autres jeux vidéo. On est bien dans le dispositif à borne d'arcade, on imagine que chaque joueur peut être contrôlé par un utilisateur qui a sa manette. Dans le deuxième trône, vous voyez, on est dans un dispositif totalement différent, on est sur un stade avec une foule. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est dans cet univers virtuel, on ne sait pas qui sont ces... il y a un peuple, apparemment, et c'est un ring... un ring de boxe ou de catch, un petit peu comme pour les championnats de boxe Las Vegas, avec plein de lumières, il y a des feux d'artifice, etc., qui sont tirés. Donc on est vraiment dans un univers urbain, et on n'est plus dans le jeu, en fait. On est dans le combat de gladiateurs et dans le spectacle. C'est-à-dire que le dispositif vidéoludique pratiquement disparaît au profit d'autre chose, au profit des jeux du cirque, essentiellement. Et on va voir quelles interprétations on peut en faire. Là, c'est le départ de la course de moto dans le nouveau trône. Et vous voyez donc le feu d'artifice, le système là qui va donner le départ. On est dans la simulation de course, mais réaliste cette fois-ci, et non plus dans la stylisation comme tout à l'heure. Autre chose étonnante... cet univers virtuel, nouvelle mouture, il nous est familier non seulement parce qu'il est mimétique de notre univers et en fait il représente non plus l'intérieur d'un ordinateur, mais très clairement une ville futuriste, une ville de science-fiction, hein, complètement dans un environnement urbain, mais en plus c'est un univers qui va multiplier les citations. Alors vous voyez ici, en haut, image de Tron 2010, en bas, image de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne pense pas qu'à ce stade, ce soit complètement fortuit. Et les allusions à un certain nombre de classiques de la science-fiction, les citations, se multiplient. Je peux vous en montrer une ou deux. Ici, on est en haut, donc... alors, une très mauvaise capture d'écran, parce que là, j'ai vu... on est dans la ville virtuelle, il pleut, et il y a ce parapluie avec un manche lumineux qui est une des icônes de Blade Runner, quand même. Alors, pourquoi il pleut dans un monde virtuel à l'intérieur d'un ordinateur? Ça, on essaiera de comprendre ça tout à l'heure. Donc, Blade Runner en bas, en haut, vous avez... donc Tron, les citations de Matrix abondent, le ciel de la ville virtuelle de Tron est le ciel du monde des machines dans Matrix. Je pense qu'on retrouverait comme ça facilement une demi-douzaine, il y a Star Wars aussi, il y a même Le Seigneur des Anneaux, une demi-douzaine au moins de films de science-fiction qui sont incorporés dans le monde virtuel de Tron. Alors quelle interprétation on peut donner de cette... manie de citation qui est quand même assez, assez étonnante. On peut, je pense, proposer cette interprétation-là. Le monde virtuel n'a pas seulement pris l'apparence d'un monde familier, mais en quelque sorte, il se présente là comme une espèce de collection de tous les futurs que nous avons imaginés, de toute une espèce d'anthologie de la science-fiction dans ce monde virtuel. Et d'une certaine façon, ce monde virtuel devient l'incarnation ou une espèce d'essence même de la science-fiction. Et c'est là qu'on peut reboucler sur le premier Tron. Le premier Tron était un film qui mettait en scène son propre moyen de production, c'est-à-dire l'ordinateur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un univers virtuel qui se donne comme une collection d'images de science-fiction comme si la technique numérique qui servait à le produire est devenue, en quelque sorte, la matière même dont la science-fiction est faite. Et je pense que, de ce point de vue-là, il y a une vraie continuité entre Tron 1982 et Tron 2010. Simplement, on ne peut plus employer les mêmes... la même rhétorique, on dit regardez, on a fait un film avec un ordinateur, puisque tous les films sont faits par ordinateur. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit non, regardez, l'ordinateur c'est la science-fiction, ou la science-fiction c'est l'ordinateur. Et je pense que c'est une manière assez élégante, assez astucieuse de, même si par ailleurs c'est pas un film fantastique, hein. Je voudrais pas vous y précipiter en sortant de là, parce que c'est ça se laisse voir, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit un film extraordinaire. Mais il y a quand même cette idée qui est assez intéressante et assez touchante. Et puis, je voudrais revenir, et ce sera un petit peu ma conclusion, sur la question de la transformation de cet univers virtuel de quelque chose d'exotique en quelque chose de familier. Même le passage d'un univers à l'autre, comme vous l'avez vu, se fait de manière beaucoup plus prosaïque et presque insensible, puisque le personnage s'assied sur une chaise, il tapote une séquence sur un clavier, il se passe un petit truc, et au début, rien n'est modifié. Puis s'il regardait bien, il s'apercevrait qu'il a un blouson neuf. C'est le seul indice qu'il est passé de l'autre côté. Et il sort dans la rue par la porte par laquelle il est entré, et en fait, la ville a été remplacée par son équivalent virtuel. Alors, je pense qu'on peut voir là, on peut voir ça comme une espèce de métaphore de la numérisation croissante de notre environnement, de cette croissance de l'infosphère dont je parlais au début, avec notamment une figure assez intéressante qui m'aide à aller dans le sens de cette interprétation, c'est que on a à la fin, spoiler, si vous pouvez vous boucher les oreilles si jamais vous allez voir le gros spoiler, si vous voulez aller voir le film, on a à la fin du nouveau Tron un personnage de l'intérieur de la machine, c'est-à-dire en fait le personnage de Cora, qui était la fille gradée là, que vous avez vu tout à l'heure, qui fait le chemin inverse, c'est-à-dire qui arrive, qui sort, qui se matérialise dans le monde réel, exactement comme à la fin du roman de William Gibson, Idolou. L'Idolou se matérialise, alors là c'est par le biais des nanotechnologies, là c'est par le biais d'on ne sait pas quoi, mais il y a cette même inversion, c'est-à-dire le cyberespace en fait se retourne, et là j'emploie à dessein l'expression qu'a William Gibson, notamment dans son roman Code Source, oui, c'est dans Code Source, où il parle d'un retournement du cyberespace à propos notamment des techniques de géolocalisation qui étendent la grille, c'est-à-dire la figure fondamentale de l'espace virtuel, le quadrillage par quoi tout est repéré à l'intérieur de la machine, au monde physique, puisque par le biais notamment des techniques de géolocalisation, la Terre entière se trouve recouverte d'une grille, la grille du GPS, la grille qui permet que tout objet soit localisé en latitude, longitude, et donc d'une certaine façon est son ancrage dans le virtuel. Et cette perméabilité, entre le virtuel et le réel, je pense que c'est le sujet fondamentalement du dernier Tron. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose en fait, puisque on n'est qu'au début. Alors rassurez-vous, j'ai quand même fini dans une minute. On n'est qu'au début je dirais, du travail de géographe qu'il faut faire à partir de ce constat. Puisque cette fusion du réel et du virtuel, ou cette construction d'un espace hybride, pour reprendre des expressions qui ont été employées déjà par d'assez nombreux géographes, il faut maintenant arriver à la prendre en compte dans notre approche de la géographie. Et cette géographie de l'infosphère que j'appelais de mes voeux, elle est en marche, hein. Elle commence. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'habiter un espace de code ? Puisque le code, par sa nature, est quelque chose qui est quand même contraignant, qui est quelque chose qui est souvent associé à des procédures de contrôle, de surveillance, la grille, c'est aussi ce qui enferme. Hein. C'est pas seulement ce qui sert à repérer, il y a quelque chose de carcéral dans cette image. Et comme ce sont des techniques de l'invisible, essentiellement, ce sont des choses qui sont potentiellement menaçante. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les imaginaires du numérique globalement, comme dans beaucoup d'imaginaires contemporains, je suis encore Jameson ici, l'attitude paranoïaque est quelque chose qui se trouve souvent à la racine de ces imaginaires-là. Et je voudrais maintenant que on suive, certes, suive des travaux comme ceux des géographes, je peux citer Graham, Kitchin, Dodge ou plus récemment Crampton, qui commencent à explorer ce que veut dire habiter l'espace du code, ce que veut dire habiter cet hybride de virtuel et de réel. Et si vous pensez que j'exagère avec cette histoire de paranoïa et de géolocalisation qui inverserait le rapport entre virtuel et réel, je vous demande quand même de considérer la nouvelle qui est sortie il y a quelques jours, selon laquelle tous les propriétaires d'iPhone, potentiellement, sont parfaitement géolocalisables à leur insu, au moyen d'un petit fichier que leur iPhone génère en permanence. Voilà. Facebook, oui, mais Facebook, vous n'êtes pas obligé de vous géolocaliser avec Facebook, puisqu'il n'y a pas de dispositif technique avec... alors, sur l'iPhone, ça marche par triangulation sur les tours relais, donc ce n'est pas aussi précis qu'un peu le GPS, mais que vous le vouliez ou non, l'iPhone génère un log de vos déplacements. Facebook, quand même, ne va pas jusque-là. En plus, les gens qui vont sur Facebook, ils acceptent d'une certaine façon d'être une certaine publicité de leur intimité. Alors que le type qui achète un iPhone, bon, peut-être que juste il achète un téléphone. Peut-être. Je n'en sais rien, j'ai pas de téléphone.
C'est pas évident, ça, pour le
moment. J'en ai aucune idée. J'ai pas de portable. Ma paranoïa va jusqu'à. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez différent.
Merci beaucoup. Merci. Tu veux dire un mot sur Dodge ou...
Sur Dodge, pas forcément tout de suite. Si je peux juste commencer par rebondir sur cette histoire d'espace ludique.
Oui.
Et capacité que je trouve très, très, très intéressante. Tu as dit, je reviendrai peut-être un peu sur la débauche de particules dans le dernier trône par rapport au fait qu'on est passé de quelque chose de ludique à du pur spectacle.
Oui.
Donc dans l'idée d'une débauche visuelle. Est-ce que tu le dis parce que tu considères que le ludique est dans une simplification ?
Non, je ne le dis pas à cause de ça. En fait, dans le premier trône, en 1982, pour le grand public, le moment où ils étaient le plus près, où le Pékin moyen se trouvait le plus près de quelque chose qui vaguement pouvait rappeler un ordinateur, c'était lorsqu'ils étaient à côté d'une borne d'arcade. Et donc, il y avait une espèce de proximité très forte entre l'informatique, au moins aux yeux du grand public, et puis le monde ludique. Aujourd'hui, des ordinateurs, il y en a partout, depuis la cuisine jusqu'au travail, dans les transports, etc. On est complètement baigné dans un environnement qui est complètement informatisé, dont le jeu est un petit secteur. Et donc, dans la grille de Tron, nouvelle version, c'est pareil, le jeu est un petit secteur, et encore, on ne sait même pas si c'est vraiment du jeu ou si c'est une transposition des grands événements sportifs dans le monde virtuel. Le terme est employé dans le nouveau Tron, on dit bien on va organiser des jeux, mais en revanche, rien ne le relie directement aux jeux vidéo, sinon comme un hommage au premier Tron.
Parce que les jeux sont remisés, ils passent un moment avant justement d'arriver dans le monde virtuel, ils passent par une salle avec plein de bandes qui sont remisées, pleines de poussière, qui essayent de redémarrer.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les jeux vidéo, ils sont effectivement sous une housse. Hein. Ils appartiennent au passé. D'ailleurs,
pas les jeux vidéo.
Hein, les bornes d'arcade, mais...
C'est aussi le passé de la société.
C'est le passé. La société n'en fait plus de jeux vidéo. Hein. Mm-hmm. Et il y a un thème nostalgique aussi dans le deuxième trône, qui est plus subtil, qui n'est pas le thème central, comme ça peut l'être, je pense, chez Gibson, mais qui est porté, par exemple, par l'utilisation des musiques. des années 80, lorsqu'il remet le contact dans la salle d'arcade, on va entendre, je ne sais plus quelle ère on entend, mais enfin un tube de ces années-là, et instantanément, il y a un effet de nostalgie qui apparaît.
C'est pas tout le marketing qui tourne tout ça, l'espèce de fan service finalement, où on va nous montrer des images de Matrix, une allusion à Blade Runner, etc.
Aussi, mais les choses ne sont jamais aussi simples que ça.
Non, c'est-à-dire bien sûr,
que, bien sûr, Tron est fait pour être, le deuxième Tron est fait pour être un blockbuster qui va attirer ceux qui ont été séduits par le premier Tron. Mais ce n'est pas une opération commerciale géniale, dans la mesure où ceux qui ont été attirés par le premier Tron, c'était finalement pas des foules extraordinaires. Il a été extrêmement influent dans le milieu, disons, des gens qui s'intéressaient aux effets visuels et dans le milieu un peu geek, mais il n'a pas touché le grand public comme a pu le faire La Guerre des Étoiles, par exemple, ou d'autres grosses productions. Alors il y a autre chose aussi où la confusion entre le monde réel et le monde virtuel et l'idée que le monde virtuel peut traverser l'écran se manifeste, c'est dans le fait que Tron soit un film en 3D. Alors bien sûr, il y a tout le marketing autour de la 3D, il va falloir vendre les télé, il va falloir aussi empêcher le piratage, oui.
Parce qu'à propos de ça, si pour le personnage dans le deuxième Tron, il a du mal effectivement à faire la part entre le monde réel et le monde virtuel. Par contre, pour le spectateur du film qui le voit en 3D relief, c'est très clair puisque le monde virtuel est en relief et le monde réel.
Et le monde réel est à plat.
Oui. Il y a même un carton au début du film qui nous dit que les lunettes fonctionnent.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est quand même
oui.
D'autant plus par le
carton. C'est mis en évidence, effectivement. Sauf que j'ai trouvé que la 3D n'était pas terrible. C'est-à-dire que. Non. C'est-à-dire que. Maintenant que vous me le dites, ça me revient, cette histoire de carton au début du film. Et alors que dans mon souvenir, j'ai l'impression que tout était à plat. Or, je sais que j'ai vu le relief. À part quelques séquences, comme peut-être la poursuite de la fin avec des espèces de vaisseaux spatiaux qui font des loopings où le relief est assez présent, l'exploitation du relief dans les effets visuels n'est pas spécialement soufflant. Mais effectivement, c'est important. Le monde en relief, c'est le monde virtuel, c'est pas le monde réel, il est tout plat.
Oui, comme si le monde virtuel était plus...
riche.
Enfin, plus riche.
Plus riche, oui, et comme si c'est... Oui, en tout cas... Comme ça.
Mais justement, je me demande s'il n'y a pas une question de représentativité, de capacité à représenter justement un monde virtuel, parce que quand tu parles des représentations des années 80, les questions de Gibson et toutes les références à Gibson, Neuromancien, c'est un livre qui est à peu près incompréhensible. Je l'ai relu récemment, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien de ce qui se passe dans le monde virtuel. Parce que le monde virtuel, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eue, on ne sait même pas combien il pourrait avoir de dimensions possibles et est-ce qu'il pourrait y fonctionner. Et finalement, Tron, sa stylisation, le premier Tron, son abstraction et sa stylisation, elle est un peu dans un monde où on n'a pas nécessairement besoin justement de représenter le monde virtuel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si on ne fait pas ça, si finalement il ne ressemble pas au monde réel, qu'est-ce que ça pourrait bien être qu'un monde virtuel qui par exemple, qu'un monde à 4, 5, 6 dimensions, comment on le représente graphiquement?
Parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui concerne le romancien et qui concerne le premier Tron, c'est les hallucinogènes. C'est le LSD, en fait. L'expérience psychédélique est fondamentale pour comprendre la genèse de l'imaginaire gibsonien. Et ça transparaît, à mon avis aussi, dans une partie des graphismes du premier Tron. C'est normal que tu ne comprennes pas, parce que
je pense que tu es
sérieusement fumé.
Si je prends une autre comparaison qui, justement, n'a pas d'appel aux hallucinogènes. Si on compare, et vous allez me dire que je vais chercher un peu loin, les représentations du monde du rêve chez Lovecraft, dans La Clé de Randolph Carter, etc., avec Inception.
Oui.
C'est-à-dire une représentation complètement délirante du rêve, où le rêve, justement, c'est un monde absolument fantastique, un monde où tout est permis, où les lois physiques n'existent plus, etc., etc., à un monde où, Inception, le monde du rêve est d'une pauvreté affligeante, où, en fait, c'est exactement le monde réel, plus des gars qui se tirent dessus, en gros. Mm-hmm. Est-ce que, là, il n'y a pas aussi le fait qu'on est dans un moment où la représentation de ce monde virtuel, on l'a fait selon des... On fait une représentation familière, finalement, des mondes virtuels pour que les gens s'y retrouvent d'une certaine manière.
C'est possible aussi, mais aujourd'hui, notamment à cause de la grande publicité qui est faite autour des techniques d'effets visuels, sous la forme des reportages promotionnels, des suppléments de DVD, etc., pour tous les films à grand spectacle hollywoodien, fait que ce qui va montrer la plus grande démonstration possible de la puissance des effets visuels, c'est qu'on les voit pas.
Ouais, exactement.
C'est se construire comme une machine à illusion parfaite. Et donc, pour qu'on ne soupçonne pas l'effet visuel, il faut, par la force des choses, on aplatit ce qui est représenté. Parce que...
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec cette comparaison. Enfin, à mesure où, justement, dans Démons et Merveilles, l'objectif, c'est de s'échapper du réel. Enfin, il le dit plus ou moins au début, il recherche les drogues hallucinogènes. Alors, dans Inception, l'objectif, c'est justement de recréer le monde le plus réel, enfin, un monde virtuel qui soit le plus proche de la réalité. Enfin,
oui, c'est vraiment la démarche qui est diamétralement l'objectif et le prétexte de la destruction aussi. Enfin, je veux dire, il est pas...
Mais moi, j'ai peut-être une interprétation qui est un peu complémentaire et qui passe par le jeu vidéo. Je pense que ce qui a changé aussi, c'est le thème de la fantasmagorie. Et de la confusion réelle-virtuelle qui est passée par les débats des années 80 et 90 sur le jeu vidéo. Il ne s'agit pas juste de montrer une prouesse technique en disant voilà, on va vous faire des images de synthèse et vous n'allez pas voir que c'est une image de synthèse. Il y a aussi une inception de l'idée que le virtuel doit être fantasmagorique et qu'on débouche sur la confusion, qui était quelque chose qui n'existait pas dans les années 70 et au début des années 80 pour le coup.
Mais justement, quand tu parles de fantasmagorique, Inception, c'est l'inverse. Alors c'est tellement fantasmagorique
que tu n'arrives plus à faire la différence. Et ça, c'est la thématique de l'emprisonnement dans une réalité autre qui est hallucinatoire, etc., mais qu'on n'arrive pas à distinguer du réel. C'est des thématiques qui est celle de Matrix. C'est des thématiques qui sont passées par les années 80 et 90 comme accusation du jeu vidéo. Donc il y a peut-être aussi une circulation, à mon sens, entre les deux trônes, une circulation qui passe par le jeu vidéo, justement.
Oui, à mon avis, qui passe plus globalement par le procès fait aux images de synthèse.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que l'image de synthèse est une image sincère ? Qui est une question un peu absurde, parce que, après tout, l'image, son processus de production ne dit pas forcément grand-chose de ce que raconte l'image, sauf si ce processus de production est mis en scène dans l'image elle-même. Mais qu'est-ce que c'est que quand je dis le procès aux images de synthèse, c'est-à-dire que, pour le dire de façon très simple, certains critiques de cinéma vont dire un film avec des images de synthèse. Et le film va être condamné sur cette base. Je pense que c'est un petit peu ce que tu dis à propos du jeu vidéo et de la du soupçon qui pèse sur le jeu
mais
vidéo.
Mais c'est un soupçon qui a été plaqué sur le jeu vidéo parce que il est héritier du théâtre, du mais oui, c'est un procès qui a effectivement été fait au jeu vidéo partie parce qu'il porte sur des images de synthèse.
Il est fait au cinéma aussi. Alors ça commence avec Tron quand on lui dit mais vous n'avez pas d'effets spéciaux dans ce film, vous avez utilisé un ordinateur. C'est quoi ce truc? Et donc pour les Oscars. Oui.
Si j'aurais peut-être une interprétation un peu différente. Disons qu'en effet, comme tu le remarquais, il y a une différence extrêmement importante dans la conception de cet autre monde qui est le monde virtuel dans les années 70 au moment du LSD, du psychédélique, et à partir des années 90-2000, mais qui à mon avis est lié aussi, alors c'est très lié au jeu vidéo, et je pense que c'est lié aussi au changement de public du jeu vidéo et au public de ce qui est de l'ordre du virtuel, mais de l'ordre aussi des expériences transcendantes, des expériences de sortie du monde réel, etc. Je m'explique très vite. Les problématiques de changement d'univers, de passage dans un univers parallèle dans les années 70, sont des expériences réservées à des minorités, à des élites, à des gens qui cherchent une forme de déracinement, de territorialisation, d'études expérimentales de soi-même, etc. C'est un thème qu'on voit beaucoup dans la science-fiction. On pourrait y revenir. J'aurais peut-être une remarque à faire sur votre définition de la science-fiction, avec laquelle je ne suis peut-être pas complètement d'accord, mais bon, on pourrait éventuellement en discuter plus tard, mais bon. Ce qui s'est passé à partir des années 90, 2000, c'est que les jeux vidéo se sont massifiés pour des raisons économiques, pour des raisons de médium technologique, etc. Et il est à mon avis possible de voir que de ce fait même, la perception du monde comme monde, enfin du monde virtuel, monde parallèle est devenue plus démocratique et par conséquent se rapproche beaucoup plus des standards de perception de tout un commun. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que dans à la différence entre, par exemple, des romans de Philip K. Dick, qui sont des types psychédéliques, et des films plus contemporains comme 32 ou comme Matrix, c'est que la recherche qui est faite du monde parallèle ou du monde ou de l'autre monde est moins expérimentale et philosophique, et peut-être beaucoup plus de l'ordre de la rêverie mainstream, en fait. Hein. Bon, mais je ne sais pas si une... c'est une hypothèse que je propose. Hein.
Je suis d'accord avec ça, sinon pour la partie Kadic, parce qu'en fait, chez Philip Kadic, il est justement exactement sur cette problématique de la confusion du réel et et ubique, c'est exactement ça. Ouais. C'est, et ils sont dans un monde virtuel, ils ne le savent pas, il faut le découvrir.
Oui. J'ai cru comprendre dans la première bande-annonce, celle de Tron Up, qu'en fait, ils rentrent dans un ordinateur central.
Oui.
Alors que dans 2, ils rentrent dans des bandes d'arcade, c'est ça?
Non, mais c'est la même chose, en fait. Il y a un petit glitch là dans le scénario, on ne sait pas trop comment cet ordinateur central aurait pu rester allumé et évoluer, faire évoluer son propre monde.
Oui, c'est la question que je vous pose, est-ce que c'est le même monde?
Normalement, oui. D'après les interviews des scénaristes, ouais. Oui, mais évidemment, ils ne développent pas énormément ce point-là.
Juste ce qui a changé aussi, c'est que Tron 1, donc c'est un film qui se voulait un peu futuriste, et qui, comme vous l'avez dit, communique sur sa propre manière de faire. Tron 2, je l'ai pas vu, hein, mais ça a l'air d'être un film de nostalgique. Parce qu'en fait, ils ont très bien compris que que Tron est devenu culte parce qu'il a été repris par les gens des années 80, qui ont grandi dans les années 80, et que du coup, ils vont faire une masse de références.
Alors, il y a cette. C'est probable, mais je pense que ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces motifs de science-fiction se multiplient. Et je pense aussi qu'on ne peut pas complètement écarter l'hypothèse d'une sincérité des producteurs du Tron actuel, notamment sur cet élément nostalgique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une démarche commerciale, mais il y a effectivement dans ce deuxième Tron quelque chose comme le regret que, quelque part, le monde a bifurqué entre ce que promettait l'univers virtuel du premier Tron avec des.
Est-ce que je pense que c'est dans le cas d'être au futurisme comme.
C'est pas impossible, c'est pas complètement impossible.
Mais, oui, parce qu'on retrouve dans le premier Tron les graphismes vectoriels et la technologie filienne de l'époque néolithique.
C'est contemporain, c'est en plein dans l'époque vectorielle. C'est normal que Space Paranoid, c'est un jeu vectoriel, le truc qui arrive.
Le problème, là, à mon avis, c'est quand même qu'il faut aussi prendre en compte la question de la production des films et de la manière dont ils sont produits. Le fait est que les producteurs de films sont des gens qui, justement, vont avoir toute cette culture, cette nostalgie, etc. Enfin, les producteurs au sens les gens qui réalisent concrètement le film, alors que les producteurs économiques sont des gens qui vont avoir pour objectif de faire un film qui va toucher un grand public. Donc, ils vont laisser la marge de liberté dans la mesure où faites des citations si vous voulez. De toute façon, franchement, les gamins de 12 ans qui vont voir le film, parce que c'est un film Disney, vont jamais comprendre que c'est qu'on cite Ridley Scott ou je ne sais qui. Tant que le reste est mainstream et parle et attire du public. Donc d'une certaine manière, il faut faire attention aussi à ça, c'est-à-dire au décalage entre la production et je vais pas prononcer un gros mot, mais l'habitus des producteurs et ce que eux mettent dans le film d'une part, et ce que les gens peuvent en retirer et en recevoir, et la nostalgie qu'on peut avoir. C'est-à-dire que la nostalgie qu'on peut avoir, que peuvent avoir en tout cas les gens qui ont vécu ces années-là, mais qui les ont vécues d'une certaine manière en regardant ces films-là, en consommant toutes ces productions culturelles-là, n'est pas la même que celle que vont pouvoir avoir d'autres publics qui ont pu vivre ces années sans consommer de la science-fiction à l'époque, ou qui simplement sont plus jeunes, etc.
L'idée c'était que autant le Tron 1 pouvait se vouloir être un film qui allait décrire une évolution possible, pas forcément probable mais possible de l'informatique, ou, mmh. voilà. mmh. autant le 32, je pense, n'assume pas cette volonté, elle assume une volonté d'une évolution qui aurait pu se passer au futur antérieur.
Oui, il y a quand même quelqu'un qui sort de l'ordinateur à la fin. Et c'est présenté explicitement dans le scénario comme un point de rupture dans l'histoire du monde. Et donc, c'est pas un film qui est entièrement nostalgique, puisque c'est un film, d'une certaine façon, c'est un film de fin du monde. Fin du monde tel qu'on le connaît actuellement, mais dans une idée qu'on a à la fin d'un cycle et qu'il y en a un nouveau qui s'ouvre. Alors, après, les films de fin du monde, effectivement, c'est devenu le seul sujet d'Hollywood depuis 3-4 ans. Et Tron s'inscrit dans cette démarche-là, mais dans une perspective un tout petit peu moins épouvantable que chez Heinrich, qui était par ailleurs très rigolo.
Tron, c'est le LSD plus le Stabilobos. C'était surlignait tout. Oui. Donc le film est intégralement surligné.
Mais on n'aurait peut-être jamais inventé l'encre fluo sans le LSD.
Il y a un lien chromatique dans les deux expériences. Mais, donc c'est strictement équivalent à la 3D. Aujourd'hui, il faut que tout soit en relief. Bon, à l'époque, il faut que tout soit fluo.
Oui, c'est vrai.
Mais plus sérieusement, il y a un point qui me gêne un peu dans la discussion et qu'il faudrait peut-être clarifier. En fait, moi, je suis pas sûr que ce soit des mondes virtuels. En fait, peut-être que c'est ça l'affaire de Tron Héritage et des derniers films, y compris Matrix. C'est plus tellement en termes de monde virtuel. C'était encore le cas dans le premier Tron. On entre dans la machine, oui. Et comme tu dis, la machine a son langage, c'est très étrange. Et en même temps très fermé sur soi, c'est vraiment, on est dans le code au sens où on apprend une langue étrangère.
Oui.
Alors que déjà dans Matrix, ça se brouille beaucoup, même s'il y a toute la problématique du passage, etc. Et ça se brouille pas simplement parce que le monde simulé, par définition, est une simulation qui ambitionne une sorte d'illusion totale, mais c'est pas fait. Et donc en ce sens, c'est un monde qui n'a pas de contenu foncièrement différent de ce qu'on s'imagine être le monde réel. C'est plus fondamentalement parce que la problématique, c'est vraiment celle des interfaces. Quoi. Alors, dans Matrix, le truc moi, qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé, et j'étais même arrivé à une théorie que je ne pourrais pas restituer aujourd'hui, parce que je ne l'ai plus en tête, mais pourquoi ils utilisent des téléphones fixes, un bakélite noir, côté rétro-futuriste, pour passer dans le virtuel, et jamais les portables, alors qu'ils en ont, y compris dans le virtuel.
Oui.
Donc voilà, bon, et ces questions de passage étaient vraiment bizarrement insistantes. Et j'avais une théorie là-dessus, je l'ai écrit. Comment le code est projeté sur la représentation virtuelle et d'un côté et sur l'espace physico-géographique de l'autre. C'est vraiment des problématiques comme ça. Et donc du coup, si on approfondit cette piste, qui était entrevue dans Matrix, qui restait quand même globalement dans l'idée du cyberspace comme une sorte de monde dans lequel on plonge, etc. Si on va, j'ai pas vu sur un héritage, mais peut-être que c'est ça. Maintenant, quand ça devient vraiment indiscernable, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quand tu as décrit le passage par la porte, c'est hyper décevant, en effet. Moi, j'attends le film.
C'est pas tout à fait le passage par la porte, essentiellement, c'est ça. Le moment décisif, c'est le moment où on franchit la porte. Après, il faut se faire irradier par un laser. Mais
et ça, c'est vachement décevant. Parce que ce qu'on attendrait, c'est le vrai film sur les interfaces, c'est-à-dire un film qui, sur les, non plus sur le monde virtuel dans lequel il faut entrer, soit en prenant de l'ecstasy, soit en tombant dans un ordinateur, soit etc. Ouais. Mais un monde dans lequel on n'arrête pas de passer, comme on passe à travers des bornes d'accès, justement, à travers des portails de tout genre, etc. Et donc un film comme, je sais pas, les films comme Minority Report, ou des trucs comme ça, qui mettent en scène, c'est pas vraiment le cœur du propos, mais ça met en scène des interfaces de façon assez intéressante. Ça me porte à m'interroger sur la pertinence encore du terme de monde, parce que monde, on imagine, une structure de monde, phénoménologiquement, c'est une structure assez particulière, et ça demande pas mal de choses. Et aujourd'hui, le vocabulaire qui circule, qui me semble spécifique de pas mal, en fait, de pratiques du virtuel, de réalité virtuelle, c'est les notions de métavers, et qui sont des... Oui. C'est pas des mondes, les métavers.
Oui, c'est-à-dire ils sont
des interfaces qui font communiquer des codes ou des banques de deux. Enfin des.
Oui, ils sont superposés.
Des espaces de représentation.
C'est des espaces qui sont superposés et pas juxtaposés.
Par exemple, Second Life est un métavers en fait. Fonctionne essentiellement comme ça. Enfin, il a l'air complètement introverti. En fait, il ne cesse de communiquer avec des flux d'informations qui arrivent de partout. De Google Earth, du cours de la bourse, de mecs qui sont en chat, etc. Et donc, j'ai l'impression que la réalité du virtuel pour nous, c'est plus du monde. C'est cet espace un peu poreux.
C'est pour eux. C'est pour eux. Je pense que ça, c'est une notion essentielle. En fait, ça soigne de partout. Ouais. C'est-à-dire que dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des influences de la ville, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui contaminent manifestement le monde virtuel, et réciproquement, on voit bien que le monde virtuel n'arrête pas de suppurer dans l'espace urbain.
On est dans la réalité mixte, en fait.
On est dans la réalité mixte.
On a des retours de balancier, on était dans la virtualité augmentée il y a quelques années, on est passé dans la réalité augmentée.
Voilà. Oui, réalité augmentée.
On est dans des mondes miroirs, en fait, où ça ressemble beaucoup. Et finalement, le problème des passages, il se pose plus tellement, puisque c'est des mondes qui ressemblent tellement à notre monde que le passage.
Il ne faut plus parler de monde, je pense.
Et du coup, c'est plus des mondes, effectivement.
Si on se fixait comme je dis, ne plus en
politique. Mais là, du coup, la science-fiction, elle est complètement contaminée par des choses qui sont liées à la réalité augmentée, je pense.
C'est exactement.
Il n'y a plus science-fiction, en fait.
Maintenant, pour ceux qui n'auraient pas capté ça, ça fait plusieurs années que je travaille exclusivement sur Gibson, quasiment. Donc, chez lui, il a un parcours très intéressant. Il invente le cyberespace un petit peu avant 84, et puis il développe ça dans le romancien. Il fait trois romans comme ça. Après, il commence à se dire, ça commence à ressembler trop à ce que je fais. Alors, il essaye de passer à autre chose, et il travaille sur l'architecture, sur la nostalgie. Il fait encore trois romans comme ça. Puis il arrive au début des années 2000, il dit, je peux pas, j'arrête de faire la science-fiction, et il fait du thriller contemporain, mais il écrit exactement les mêmes histoires du début à la fin. C'est-à-dire que ces romans actuels qui sont meilleurs, à mon avis, si vous voulez lire, il faut le lire en anglais, c'est Pattern Recognition, qui est un roman du début des années 80, des années 2000, je crois, qui est sûrement, d'une certaine façon, un des meilleurs romans, post-moderne pour aller très vite, lisible. Parce qu'il y a plein de romans post-modernes, pas très lisibles. Et dans Pattern Recognition, c'est son premier roman hors du domaine de la science-fiction, et au fond, on y retrouve absolument tous les éléments du roman. Et il a à la fois cette réflexion-là, en quelque sorte, il dit, d'un autre côté, ce que j'avais imaginé au début des années 80, c'est là, et c'est pas là. Et il essaye de bricoler avec ça. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de ce roman-là, où justement le thème de la nostalgie et du rétrofuturisme est aussi assez central. Parce qu'il y a c'est un roman de 2001 ou 2002, je sais, parce qu'en fait le 11 septembre est toujours en arrière-plan, et il est même mis en scène à un moment donné dans le roman sous la forme assez bizarre d'un pétale de rose qui tombe dans la vitrine d'un antiquaire. C'est tout ce qu'on voit du 11 septembre. Il y a peut-être eu un ébranlement quelque part dans la ville qui fait que ce pétale de rose tombe. Et ce pétale de rose dans la vitrine, c'est en fait une nouvelle mise en scène du dispositif de la boîte de Cornell, donc cet artiste qui faisait des espèces de natures mortes dans des bocaux ou dans des aquariums. Qui est un motif qui commence à apparaître dans les romans de science-fiction de Gibson sur justement les vestiges du passé, mais considérés comme étant ce qui est touchant dans les vestiges du passé chez Gibson, c'est la nostalgie des futurs qui ne sont pas advenus. Et donc son passage de la science-fiction à la fiction contemporaine s'explique comme ça. Je pense que c'est ça à peu près.
Oui, il y a ça. Il y a sur le rapport futur qui aurait pu advenir.
Oui.
Mais il y a aussi, je pense aussi quand même, moi je pense que c'est plutôt par rapport aux technologies numériques de manière générale.
Oui.
Aujourd'hui, on est dans des mondes miroirs. Le virtuel se pense. On a une représentation dominante du virtuel qui est le monde miroir, qui est Google Earth en gros. Il y a quelque chose de le virtuel aujourd'hui, c'est de la réalité augmentée. Parce qu'on est dans l'informatique pervasive. L'informatique pervasive, tout à l'heure quand vous avez commencé, vous avez dit que je m'intéresse justement à toute cette informatique embarquée qu'on a sur nous, comme des prothèses, etc. Mais on est bien en chair en os. Donc on n'est plus dans une virtualité totalement augmentée, mais dans un réel simplement augmenté. Et ça imprègne, j'ai l'impression, tout. La production
oui, bien sûr.
Aujourd'hui.
Bien sûr. Il y a aussi cette idée que c'est peut-être pas tout à fait un monde miroir, mais cette part numérique du monde, c'est quelque chose dans quoi, par la force des choses, nous habitons et qui nous environne complètement et qui
est un peu inquiétant. On est dans des espaces spatiaux, donc on est dans un espace réel qu'on veut ou non.
Mais c'est un peu angoissant parce qu'on ne peut pas le voir sans disposer d'un certain nombre de dispositifs techniques qu'en plus il faut maîtriser. Il faut avoir les codes, quelquefois les codes d'ailleurs au sens code secret d'accès. Et pourquoi justement les fictions d'espionnage font leur miel de cet environnement technologique? Parce que ça divise le monde entre deux catégories, si je veux être très simple, entre ceux qui se promènent dans la rue et qui n'y pensent rien, et ceux qui voient ce qui se passe. Ceux qui ont accès au code ou qui ont accès aux dispositifs techniques qui vont permettre d'agir, de surveiller, de contrôler, d'influencer les gens. Et ce monde miroir, c'est pas simplement une espèce de double virtuel de la réalité, mais c'est aussi un lieu où des luttes de pouvoir se jouent et où il y a des initiés. Pour ça que l'idée de société secrète aussi parcourt un petit peu toutes ces fictions là et ça pose des problèmes politiques notamment qui sont importants. Qui a le droit d'être derrière l'écran? Pourquoi, par exemple, en Angleterre, à Londres, vous n'avez pas le droit de photographier les caméras de surveillance? Pourquoi elles ont le droit de faire votre image, et pourquoi vous n'avez pas le droit de surveiller ceux qui vous surveillent?
Juste s'il faut revenir, enfin, à moins qu'il y ait d'autres questions, je voulais juste faire une dernière remarque pour revenir un peu sur les jeux vidéo. Enfin, ce que je trouve très intéressant, très frappant, entre aussi bien dans le cas de Soleil Vert que de Tron, c'est que dans les années 70-80, on va dire, ce qui fait science-fiction, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire que ce qui permet de mettre en scène la science-fiction, c'est le jeu vidéo lui-même. C'est assez intéressant. Enfin, dans l'extrait qu'on a eu de Soleil Vert, c'est parce qu'il y a un jeu vidéo qu'on comprend qu'on est dans un univers futuriste. Et Tron, c'est un peu la même chose. L'univers futuriste est traduit par le jeu vidéo. Alors qu'en fait, actuellement, le jeu vidéo ne fait plus science-fiction. Et en fait, la science-fiction a finalement envahi le jeu vidéo en tant que contenu ou en tant que thème narratif de jeu vidéo. Enfin, je trouve ce glissement assez frappant. Il transparaît très bien dans les exemples que vous avez donnés. Voilà, pour moi, c'est ce que je retiendrai sur cette action de science-fiction.